Aux Romains,
puis je ferai une petite présentation générale et puis nous engagerons l'étude proprement dite.
Donc Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Or, ayant des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant le premier à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints, vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, vivant en paix, avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »
L'Épître aux Romains est une épître fondamentale. Après les Évangiles et le Livre des Actes, on lui a accordé cette place-là. Elle constitue l'essentiel dont les chrétiens ont besoin. C'est une base indispensable pour pouvoir vivre une vie chrétienne. Nous y trouvons dès le début l'Évangile annoncé, et puis l'Évangile expliqué, parce qu'il y a deux versets caractéristiques, versets 16 et 17 du chapitre 1er. L'Évangile comme puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et l'Évangile qui révèle la justice de Dieu sur le principe de la foi. Donc, puissance de Dieu en salut à quiconque croit et justification par la foi. Ensuite, du verset 18 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, nous avons un ensemble d'explications qui nous montrent que tout le monde, sans exception, a absolument besoin de ce salut. Tout le monde est concerné. Donc, c'est l'Évangile qui constitue un besoin universel. Tout le monde ici est concerné. J'espère que tout le monde en a profité. Sinon, écoutez bien, ça vous fera du bien et ça ne peut pas vous faire de mal. Ensuite, nous découvrons quelque chose qui est le contenu et le fondement de l'Évangile. Autrement dit, Dieu qui est juste en justifiant le pécheur par la foi en l'œuvre du Seigneur Jésus. Et puis, le contenu de l'Évangile qui constitue une richesse pour la vie, vivre véritablement. Non pas vivre en essayant de s'investir pour ne pas penser aux choses qui pourraient troubler, mais vivre pour connaître la paix et pour jouir de ce que Dieu en réserve pour sa créature, pour son bonheur présent et éternel. Le chapitre 4, c'est une harmonie entre l'Ancien Testament et cet Évangile qui est apporté dans le Nouveau Testament. Et il explique en particulier qu'Abraham a été justifié par la foi et que nous sommes sur le seul terrain, le vrai terrain de Dieu pour une justification, la foi. Avant l'œuvre de Christ, il y a eu des hommes de foi auxquels Dieu attribue le bénéfice de l'œuvre de Christ. Nous, nous sommes ici maintenant après la victoire remportée sur la croix et nous sommes au même bénéfice de l'œuvre de Christ. Toujours justification par la foi. Le chapitre 5 nous introduit dans les bienfaits de l'Évangile. La jouissance de la paix, la jouissance d'une espérance, la jouissance de l'amour de Dieu et de tout ce que la réconciliation apporte en recevant la grâce de Dieu et en jouissant de la véritable victoire remporté par le Seigneur Jésus sur la croix. La fin du chapitre, du verset 12 jusqu'au verset 21, apporte quelque chose de caractéristique et d'important, parce que dans la parole de Dieu, nous apprenons que nous sommes tous pécheurs par nature. La Bible fait une différence entre le péché et les péchés. Et comme descendants d'Adam, nous sommes tous pécheurs dans notre nature. Alors, ça va ? Je continue. Par conséquent, il fallait que soit établie une victoire qui nous délivre absolument de cette racine de laquelle nous ne pouvions pas sortir. Et la fin du chapitre explique justement cette victoire du Seigneur Jésus à la croix sur ce qui concerne le péché d'Adam, c'est-à-dire la racine de péché en nous. Alors, vous comprenez que nous sommes libérés de quelque chose de quoi nous ne pouvions pas sortir. Et le chapitre 6 nous invite à jouir de ces choses-là pour entrer dans une vie avec le Seigneur Jésus et avec l'Évangile qui puisse être une vie sainte. Et il décrit justement cette libération et cette possibilité, étant délivré de ce péché comme racine dans notre nature, de pouvoir vivre une vie sainte dans une vraie liberté. Le chapitre 7 introduit quelque chose de nouveau, en indiquant que la loi était importante pour le peuple et elle nous apporte à nous-mêmes un enseignement, elle nous permet de connaître ce que nous sommes dans notre nature et de le tester tous les jours. Le chapitre 8, c'est l'Esprit de Dieu comme puissance pour la vie. Un sujet très vaste, je ne sais pas si On aura l'occasion de l'étudier un jour. Les chapitres 9, 10 et 11, c'est en relation avec Israël, mais en même temps avec des enseignements pour nous, le passé, le présent et le futur d'Israël. Et puis, le chapitre 12 commence alors la partie qui nous concerne sur le plan pratique, puisque nous avons prié pour que cette étude nous apporte quelque chose dans notre vie pratique, dès maintenant. Alors là, nous avons justement comment vivre avec l'Évangile quand on est véritablement passé par la croix et qu'on bénéficie de la victoire remportée par le Seigneur Jésus à la croix, qu'on en bénéficie par la foi. Chapitre 12, on va le voir, dans une consécration personnelle, les deux premiers chapitres, dans le service avec les dons qui nous sont donnés, du verset 3 au verset 8, et puis par rapport à la société, pour la fin du chapitre. Le début du chapitre 13, c'est en relation avec les autorités, puis ensuite, la fin du chapitre 13, et nous avions vu le chapitre 14 l'an passé, c'est en relation, avec, jusqu'au verset 13 du chapitre 15 d'ailleurs, avec les autres croyants. Ensuite, c'est quelque chose qui concerne plus particulièrement Paul. Et le chapitre 16, alors, c'est une appréciation de ces choses en constatant que chez d'autres, Dieu a opéré des choses magnifiques, qu'elles se voient, qu'il y a des personnes qui s'impliquent dans la vie, qui remplissent une véritable fonction. Alors, c'est un sujet de reconnaissance. La fin du chapitre 13, je suis passé rapidement, c'est un petit peu en relation avec l'avenir. Donc, on attaque maintenant le chapitre 12, sauf si d'autres frères ont un petit complément à donner sur cette place du chapitre 12 dans l'ensemble de l'Épître aux Romains.
Le début de, jusqu'à la fin du chapitre 11, en quelque sorte, le début de cette épître, cette lettre, et nous parle de la, c'est un livre qui nous fait un exposé de la vérité de Dieu, et nous parle de la doctrine. Et puis à partir du chapitre 12, c'est la mise en pratique. Une chose, quand on lit la parole de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de nous instruire. Et il nous instruit en nous expliquant ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est ce qu'on appelle couramment la doctrine. Mais la vraie doctrine de Dieu débouche toujours sur quelque chose de concret, de pratique. C'est un peu, la doctrine, c'est un peu comme le squelette d'un corps humain qui fait que ce corps humain peut se tenir debout et qui fait que ce corps humain, avec les muscles qui sont dessus, va fonctionner. Quand on a appris ce que Dieu a fait, quelle est la doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu, la conséquence, la première conséquence, probablement, c'est l'adoration. Et c'est ce qu'on a tout à fait dans la fin du chapitre 11, quand il y a ces versets, les versets 33 à 36, qui sont une sorte de chant de louange, d'adoration, qui sort du cœur de Paul et qui sort de notre cœur, quand on arrive à la fin de ces chapitres. Que c'est merveilleux. Et puis maintenant, il y a une conséquence concrète dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'on a appris? Et quand on lit le début de ce chapitre, c'est « Je vous exhorte donc, frères, à ». Ce « donc » nous montre que c'est lié à ce qui est avant. Et souvent dans cette épître, il y a des « donc » qui sont arrivés, qui ont été donnés. Au chapitre 5, eh bien, nous sommes justifiés. Ayant donc été justifiés, qu'est-ce que vous allez faire? Chapitre 8, il y a ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre vie? Quelle libération va-t-on avoir, puisque nous ne sommes pas condamnés? Et puis aujourd'hui, dans ce chapitre, je vous exhorte donc, frères, à cause de tout ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait de nous, alors, qu'allez-vous faire? Et Dieu, demandons au Seigneur qu'aujourd'hui, de cette étude, de ces moments, on puisse, en partant tout à l'heure, si le Seigneur n'est pas venu nous chercher avant, eh bien, que, quel que soit notre âge, ayant reçu quelque chose du Seigneur, on dise, oui, donc, je vais vivre ce que Dieu a voulu m'apprendre là.
Peut-être que vous vous êtes rendu compte, comme moi, que on aime le Seigneur Jésus, et puis on voudrait lui faire plaisir, on voudrait mettre en pratique tout ce qu'on a lu, puis on n'y arrive pas. On y arrive de temps en temps, et puis très vite, ça fonctionne plus. Et pourtant, on a envie. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Alors, peut-être que je vais redire en deux mots ce que Jacques a dit, mais différemment, pour essayer de comprendre. Donc, si j'ai envie, c'est parce que j'ai un désir de plaire à Dieu, et j'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'à la fin de la journée, on va avoir eu des exhortations, hein, on va parler de consécration, et on voudrait bien que ça fonctionne, et non pas rester encore avec ces désirs qui ne se réalisent jamais. Finalement, cette lettre nous apprend, nous parle de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour nous. Ah, voilà. Et Jacques nous a dit, nos péchés ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ, et puis nous sommes libérés de ce que nous sommes, et puis voilà, on va pouvoir vivre pour Dieu. Mais le centre de cette bonne nouvelle, c'est la personne du Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Lisez dans le premier chapitre, il est parlé de l'évangile de Dieu, et cet évangile de Dieu, dans le chapitre premier, au verset 4, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'évangile touchant son Fils, verset 3, Jésus-Christ notre Seigneur, et le verset 9 dit, parler de l'évangile de son Fils. Donc le centre de cette bonne nouvelle, c'est pas d'abord nous, mais c'est d'abord Jésus-Christ. Ah bien. Et quand on lit cette lettre, on se rend compte que l'homme, eh bien, a existé, a essayé de vivre, mais tout ce qu'il a fait, ça marchait pas. Nous apprenons une chose, c'est que pour Dieu, il y a en quelque sorte deux hommes. Le premier homme, c'est Adam, et puis un jour il a décidé de vivre tout seul, de se débrouiller tout seul. Catastrophe. Et nous sommes des enfants d'Adam, et qui par nature, on essaye de se débrouiller tout seul, sans Dieu. Alors comment faire pour pouvoir vivre ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire de sorte que l'homme que je suis, qui m'anime, on va le mettre de côté. Et puis on va le remplacer par une autre personne qui, elle, va pouvoir faire à Dieu. Et qui c'est cette nouvelle personne? C'est celui qui est le centre de cet évangile, Jésus-Christ. De sorte que le verset charnière de cette lettre, c'est donc dans le chapitre 6 de cette épître, où il est dit que le vieil homme a été crucifié, c'est-à-dire l'homme qui avait l'habitude de vivre indépendamment de Dieu. Il a été crucifié, mis de côté. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour laisser le nouvel homme, c'est-à-dire le Christ, venir habiter en moi qui crois. De telle sorte qu'on voit que nous marchions en nouveauté de vie, dans le verset 4, nous sommes identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, et nous serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, c'est-à-dire cet être pécheur, soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, mais que nous puissions nous mettre au service de Dieu. Donc, et concrètement, le verset, chapitre 13, le dernier verset, il est dit au verset 14, « Revêtez le Seigneur Jésus-Christ ». C'est-à-dire que Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, notre être ne pouvait pas plaire à Dieu, donc il l'a transformé ça, il a changé ça, de telle sorte que Jésus-Christ est venu habiter en nous. Nous sommes en Christ. Et voilà ce qui va être aussi une expression dans notre chapitre. Nous sommes en Christ. Donc Christ vit en moi. Et c'est lui qui va pouvoir, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, chapitre 8, faire que ce que nous allons voir aujourd'hui va être absolument concrétisable dans ma vie. Alors le problème que nous avons souvent, c'est que nous gardons nos vieilles habitudes et nous essayons de plaire à Dieu avec notre ancienne manière de vivre et on n'y arrive pas. Alors, peut-être que ce qui sera intéressant aujourd'hui, c'est de découvrir que je ne peux vivre les exhortations que nous avons aujourd'hui exclusivement si c'est Christ qui vit en moi, une personne vivante, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, on n'y arrivera pas par nous-mêmes, mais Christ qui est en moi va vivre cela. Et je crois que c'est ça la clé de la vie chrétienne aujourd'hui, de la vraie liberté, c'est de laisser le Seigneur Jésus vivre en nous. Alors c'est peut-être que des mots ce que je raconte, mais je crois qu'on va pouvoir le réaliser vraiment dans notre étude. D'abord, non seulement être conscient de ce que Dieu a fait de nous, mais en plus que le Christ, par le moyen de l'Esprit de Dieu, vit en moi. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un renouvellement de mon être intérieur, mais ça, on va y venir.
Les compassions de Dieu se déroulent devant nous dans les 11 premiers chapitres. On ne peut pas comprendre avec un esprit humain comment un Dieu saint, pur, puisse s'occuper d'un être vil et misérable qui s'était éloigné de lui et finalement opposé à lui. Alors il y a tout un chemin des compassions de Dieu qui mène si loin que dans l'éternité, lorsque le Seigneur Jésus sera venu chercher les siens, c'est lui-même qui paraîtra en tous. Dieu sera glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, et c'est Christ qui paraîtra vraiment. Et par conséquent, nous avançons jusqu'à lui être rendu semblable, ce que nous trouvons dans la première épître de Jean au chapitre 3. Comprenez donc qu'il y a ici un déploiement de compassion, une sympathie de Dieu qui vient nous chercher où nous sommes pour nous introduire dans cette sphère de bénédiction et nous porter jusqu'à cette similitude. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant. Avant, qu'est-ce qui nous attirait ? Eh bien, j'en dis, la convoitise de la chair, nous comprenons tous ce que ça veut dire, même les enfants, hein, l'envie de faire un certain nombre de choses qui sont défendues, ça existe, c'est tout le monde, nous y sommes tous passés, je peux dire librement, qui lève la main pour dire qu'il n'y est pas passé ? Bon, on ne voit pas de main en l'air, je ne lèverai surtout pas la mienne. Hein. Ensuite, il y a l'orgueil de la vie, et puis la convoitise des yeux, voilà, c'est quelque chose que nous connaissons aussi, et l'orgueil de la vie, paraître, être quelqu'un, avoir de l'importance, voilà, ça c'est naturel, chez l'homme naturel, on trouve ceci, tous les conflits qu'on trouve, particulièrement dans les moments que nous traversons aujourd'hui au sein des sociétés, hein, sont des choses qui paraissent énormément, source de conflits, source d'opposition. Les gens ne sont pas heureux, eh bien, Dieu nous libère de ces choses-là et nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire à mener une vie dans laquelle nous offrons quelque chose à Dieu. Jouissant de ce que Dieu a opéré en nous, nous pouvons entrer librement dans des choses qui nous étaient inaccessibles ou qui nous ne faisaient pas envie, mais qui maintenant sont une source de joie et de reconnaissance pour nous. Vivre une vie qui offre à Dieu quelque chose qui lui convienne, nous trouvons sa volonté, sa pensée, son attente dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui transforme la vie. On peut être heureux tous les jours, à chaque instant du jour, si on a ce désir d'offrir à Dieu quelque chose qui lui soit agréable. Et offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est entrer dans cette réalité qui nous est possible avec le secours de l'Esprit de Dieu. Oh, pas sans défaillance. Mais, véritablement, il y a une expression très forte qui se trouve dans la première épître de Jean, je vais quand même la lire, Quiconque est né de Dieu, c'est 1 Jean 3, verset 9, ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est le nouvel homme dont a parlé Philippe. Mais, comme je suis encore là comme descendant d'Adam, eh bien, de temps en temps, j'oublie de vivre dans une communion avec Christ. Alors, l'ancien se manifeste. Mais il n'en reste pas moins que j'ai en moi cette réalité. Si je suis avec Christ dans une vraie communion, alors le péché ne me concerne pas. Et nous avons l'invitation à entrer dans cette réalité. Offrir nos corps en sacrifice vivant nous conduit à gagner du terrain là, dans une vraie communion pour vivre les choses qui sont bienfaisantes pour tous, mais principalement agréables à Dieu pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur.
Dans le chapitre là, il est question de nos corps. Dans ces deux versets, il est question de notre intelligence, il est question de notre volonté. La première chose qui est présentée, donc, c'est le corps. Mon corps, il peut être gouverné par mes passions, par le péché. Ou alors, je vais être libéré de cela, et mon corps va servir le Seigneur, dans un sens. Peut-être qu'on peut se poser la question que ça veut dire un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, quand on offrait un sacrifice, il était mort. Et j'ai lu de plusieurs commentaires où on prenait comme exemple le sacrifice d'Isaac. Quand Isaac a été amené par son père sur le mont Morija, il était là pour être sacrifié, pour mourir. Et puis, en fait, Isaac a accepté le fait d'être sacrifié. Et puis voilà qu'il y a eu quelqu'un qui a été sacrifié à sa place, et Isaac n'a pas été sacrifié, mais après, il est vivant, et sa vie, à ce moment-là, doit être sacrifiée pour Dieu. Un sacrifice vivant, c'est au fond, peut-être, la disposition dans nos cœurs, dans notre vie, à abandonner au Seigneur tous nos espoirs, toute notre ambition, tout ce que nous désirons. Lui abandonner. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de sacrifices dans le sens qu'on abandonne des choses qui vont nous faire du mal. Parfois, j'ai l'impression qu'on présente les choses ou on les comprend un peu comme si notre vie chrétienne c'était marcher à reculons en abandonnant différentes choses et un peu en les regardant un peu de loin. Je dirais ça c'est un peu la méthode de la femme de Lot. On regarde en arrière et puis c'est difficile, des choses abandonnées. Mais là, ce qui nous est présenté, c'est pas ça. La première chose qui nous est présentée, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Je dis pas est-ce que Dieu m'a aimé, mais est-ce qu'il m'aime? La réponse est oui. Est-ce qu'il a compassion de moi aujourd'hui? La réponse est oui. Est-ce que je suis conscient des compassions de Dieu dans ma vie, ce bonheur d'être l'objet de la compassion de Dieu? Et l'exhortation vient là par les compassions de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, alors offrez-vous. Offrez-vous entièrement au Seigneur. Non pas pour qu'il vous agrée, non pas pour qu'il vous aime plus, mais parce qu'il nous aime. Offrez-vous entièrement. Et c'est au fond, on le sent bien cela, c'est vraiment la source du bonheur. Philippe a parlé du fait que Christ vit en moi. L'autre jour à Jeanville, on a entendu ceci, les disciples, quand ils étaient sur la terre, ils étaient avec le Seigneur. Et le Seigneur Jésus leur dit, je m'en vais maintenant, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Quel est l'avantage qu'ils ont eu? Quand le Seigneur Jésus est parti. Le Seigneur Jésus est parti, pendant les 3 ans et demi où ils ont vécu avec lui, ils étaient avec lui, il était à côté d'eux. Bien sûr, ils pouvaient lui parler, bien sûr, ils pouvaient le toucher, bien sûr, ils ont été heureux dans cette circonstance. Mais aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus n'est pas à côté de nous. Bien sûr, il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Mais l'enseignement de la parole, c'est que Christ est en nous. Dans un sens, je suis en Christ, protégé en Christ. Personne ne peut m'atteindre par rapport au diable, etc. Bon, c'est pas le sujet peut-être. Mais Christ vit en moi. De telle sorte que, à tout moment, à tout instant, si je réalise que Christ vit en moi, à ce moment-là, c'est un peu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Une circonstance qui se passe, une question qui se pose, un exercice, une tristesse, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu donnes? Et il est là, en moi. Est-ce que c'est vrai ou faux cela? Il y a une prière dans les Éphésiens au chapitre 3 qui dit ceci. Et cette prière est, comme toutes les prières qui sont écrites dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 17 de Éphésiens 3, verset 16, la prière s'adresse au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour. On prie Dieu le Père et l'Esprit de Dieu agit par sa puissance pour que nous réalisions par la foi que Christ habite en moi. Et que la conséquence, je suis enraciné dans la source de l'amour et fondé sur le Seigneur, inébranlable quand je réalise que Christ vit en moi. Est-ce que vous croyez que Christ vit en vous? Mais s'il vous plaît, prenons le temps de nous arrêter. Est-ce que tu crois ça? Oui ou non? Mais c'est un bonheur merveilleux. Christ vit en moi. Et puis c'est quelque chose qui est répété plusieurs fois. Par exemple, dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, il est dit ceci, « Examinez-vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Hein, » Faites le test. T'es sûr d'être au Seigneur? Regarde, fais le test. Et examinez-vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? Et la vie de Dieu, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus, quand j'ai cru au Seigneur Jésus, Jésus-Christ est en moi, Jésus vit en moi. Et puis encore un autre passage, c'est Paul qui parle de ce qui vit lui. Chapitre Galates, la même page de Corinthiens 13, Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ ». Qu'est-ce qui a été enseigné en l'épître romain? Mon vieil homme a été crucifié. Il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a porté mes péchés, et la source des péchés qui est en moi, ce vieil homme, a été crucifié avec Christ. Est-ce que je le crois ou pas? Et personnellement, je me souviens du jour où j'ai réellement cru que mon vieil homme, cette source de mal en moi, avait été crucifié avec Christ. Et ça a été un bonheur, une libération incroyable. Bon, je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la foi, dans le corps, dans la chair, dans le corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis crucifié avec Christ. Christ vit en moi. C'est ce que nous sommes, nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Et dans notre chapitre, au fond, c'est la mise en pratique de ce que nous sommes. Présentez vos corps en sacrifice vivant parce que tu es crucifié avec Christ. Parce que ton vieil homme a été crucifié. Et ce corps, cette volonté, cette intelligence que Dieu va renouveler parce que Christ vit en nous, c'est un bonheur. Et c'est quelque chose qui est une réalité, que Dieu veut que ce soit une réalité active dans chacune de nos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas apprendre des choses. Bien sûr qu'il faut apprendre la parole de Dieu, bien sûr qu'il faut comprendre ce que Dieu dit, mais cette compréhension des choses, si elle est réellement comprise, se traduit par l'acceptation par la foi de ce que Dieu dit. Je crois ce que Dieu dit, et par la mise en pratique, conséquence de la foi, dans ma vie.
Oui, je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur le fait que Dieu ne nous impose rien, et on peut être sauvé, et puis c'est bon, hein. C'est bon pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui va déclencher un désir d'offrir sa vie? C'est vraiment non pas la peur de quelque chose, mais c'est vraiment une relation d'amour. Et je crois que c'est vraiment l'essentiel dans le christianisme. C'est on est en relation avec un Dieu vivant qui est même. Et je l'aime parce qu'il m'aime. Ça, je crois que c'est ça l'essentiel. Mais il y a un deuxième aspect. Deuxième aspect, on le trouve dans 1 Corinthiens 6. D'un côté, Dieu m'a donné la vie. Mais qu'est-ce qui nous est dit? Là, dans notre chapitre, c'est offrir nos corps en sacrifice vivant. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, une question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et je crois qu'il y a ces deux côtés. Relation d'amour, alors c'est facultatif, mais quel bonheur de pouvoir répondre à l'amour de quelqu'un qui nous aime. Hein. Et en même temps, il y a une chose essentielle, c'est que nous sommes maintenant, nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et dans ce sens-là, eh bien, nous avons ce devoir d'amour de répondre à cet amour de Dieu, d'offrir nos vies. Dans l'Ancien Testament, il y a un bel exemple. Après la Pâque, il y a Dieu qui va s'adresser à ceux qui méritaient la mort et qui ont été miraculeusement sauvés de la mort, tous les premiers-nés. Et qu'est-ce qu'il dit dans Exode 13 ? Dieu. L'Éternel parle à Moïse, disant, « Mets-moi à part, tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, dans les hommes et les bêtes, il est à moi. » Ça veut dire, il m'appartient. Et dans le début du livre des Nombres, quand il est parlé de ceux qui vont être au service dans la maison de Dieu, c'est-à-dire qui vont offrir finalement, non pas offrir eux, parce que ça va être une obligation, mais qui vont en tout cas consacrer leur vie pour la maison de Dieu, c'est-à-dire pour Dieu lui-même. Dans Nombre 3, il dit « Fais approcher la tribu de Lévi, verset 6, et fais-la se tenir devant Aaron, c'est-à-dire devant le Seigneur Jésus. Hein, » Aaron était une type du Seigneur Jésus, on trouve ça dans Hébreux. « Le sacrificateur, afin qu'il le serve, hein, et qu'il accomplisse tout ce qui appartient à son service, au service de toute l'assemblée. » Et au verset 9, il est dit « Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront absolument donnés, entièrement donnés. » Voilà. Nous sommes là dans une relation avec maintenant un Dieu qui nous aime, et il nous propose, par la voix de l'apôtre Paul, d'offrir nos vies. Voilà, c'est une offrande volontaire à Dieu. Et ça veut dire vraiment offrir nos corps. Mais comme Jean-Luc l'a dit, ça va être aussi notre intelligence, ça va être notre volonté, c'est nos pensées. C'est les corps, c'est ce qui concrétise tout ce qui a cheminé par mon esprit et mes pensées, et ça aboutit à des actes. Ben, c'est tout mon être. Et c'est pas simplement par moment, mais c'est offrir, vraiment, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Alors est-ce que ça va vouloir dire que ça va être une vie triste, une vie... Et justement, on nous a dit tout à l'heure, c'est pas... La vie chrétienne, c'est pas simplement ne pas faire des mauvaises choses, parce que ça serait franchement terrible, hein, de passer son temps à essayer de pas faire des mauvaises choses. Mais là, c'est vouloir vraiment faire des bonnes choses, et par la puissance que Dieu met dans notre vie, de pouvoir vraiment faire des choses qui plaisent à Dieu, dans la liberté, c'est-à-dire de choisir de faire des choses pour Dieu et de pouvoir vraiment les faire. Ça, c'est la vraie liberté.
On a vu tout à l'heure que en recevant ce que Dieu offre en Jésus-Christ et en s'appropriant la victoire de Christ à la croix, Nous étions libérés de cette emprise du péché de laquelle nous ne pouvions pas sortir. Avec ce que Philippe vient de dire, vous voyez la cohérence des Écritures. Plus on lit la Bible, plus on découvre des choses qui font du bien. Je vous lis un verset à la fin du chapitre 4 de l'épître de Jacques. « Pour celui donc qui sait faire le bien. » Voilà, le bien, l'appréciation de Dieu. Non pas une appréciation humaine, parce que par exemple au début du livre d'Ésaïe, je vais vous lire le verset parce que c'est quand même important. C'est le bien selon l'homme, voilà. Malheur à ceux qui appellent, c'est au chapitre 5 du livre d'Ésaïe, au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer, etc. Malheur à ceux qui sont sages à vos propres yeux, on trouvera quelque chose dans le chapitre. Voilà, les hommes ont une vision des choses, et aujourd'hui, dans une certaine sphère de la société, ce qui est absolument caractérisé par la Bible comme mal, on s'en vante, et on arrive même à dire que c'est bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et vous aussi j'espère, c'est la vérité. Et la vérité, c'est tout ce qu'il y a dans ce livre-là, tout ce que Dieu nous donne. Et là, je trouve le bien, mais le bien avec sa véritable référence, sa véritable source. Je lis donc pour connaître le bien, et je sais, par conséquent, j'apprends progressivement, en intégrant au fur et à mesure que j'avance, la pensée de Dieu, ce qu'est faire le bien. Pour celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Et moi, je ne suis pas heureux quand je viens de vivre quelque chose que je considère à la lumière de la parole de Dieu comme un péché. Donc, je viens à celui qui travaille, premier épître de Jean, qui va me sortir de cette situation et me réintroduire dans une vraie communion. Donc, on a besoin de savoir où est le bien. Et on a envie de faire le bien parce qu'on est malheureux quand on pêche. Une petite note encore, après ce que Jean-Luc a dit. Donc Jean-Luc a parlé de la présence de Christ en nous. Et puis, Philippe vient de parler, entre autres, de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Offrir son corps en sacrifice vivant, c'est vivre quelque chose qui est selon la pensée de Dieu. Et alors, dans l'Évangile selon Jean, c'est quelque chose qui s'impose à nous, ces choses-là, cette manière de vivre, parce que plus on le vit, plus on est heureux. Je lis simplement ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Dieu en nous maintenant, en attendant, 1 Corinthiens 15, 28, que ce soit Dieu seulement vu en tous ceux qui, par la puissance de Dieu et comme conséquence de l'œuvre de Christ, seront portés dans leur situation d'éternité. Et c'est Dieu seulement qui est vu. Mais déjà, Dieu en nous maintenant. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Je suis malheureux si je vis quelque chose qui ne répond pas au caractère divin. Je suis enfant de Dieu. Vous savez très bien, tous ici, même les enfants, que on regarde son père quand on est petit, Et le Père, c'est l'exemple. On regarde Dieu, notre Père, dans la vie que nous avons reçue, la vie de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, il est notre exemple. Lui manifester de l'amour, répondre à son amour, j'en dis nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier, eh bien, c'est l'imiter et manifester quelque chose de ses caractères. Ça, c'est le bonheur, c'est la vie, c'est une saveur de vie permanente. Offrir nos corps en sacrifice vivant. Donc quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et puis, service intelligent, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. Lorsque nous trouvons des hommes qui manquaient quelque part de lumière ou de connaissance ou d'intelligence dans les pensées de Dieu, eh bien, nous apprenons que Dieu donne cette capacité. Il y a, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires pour les enfants, pour les jeunes et même pour les grandes personnes. Les personnes d'un certain âge aiment quelquefois entendre les histoires des enfants quand elles ont une bonne moralité. Il y a, au début du livre de Daniel, des jeunes gens qui étaient des jeunes gens intelligents, qui avaient vécu en relation avec Dieu, qui étaient des hommes de foi, et ils se trouvent transportés, emmenés au loin dans une société où on change leur nom pour essayer de leur donner une autre perception et pour les amener à vivre dans une autre sphère. Mais ils sont attachés à Dieu et ils veulent ceci. Et en quelque sorte, ils veulent offrir leur corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire vivre les choses de Dieu, non pas les choses d'un monde étranger à Dieu. Il leur manque une sphère d'intelligence. Il est dit en toutes lettres, dans le chapitre premier du livre de Daniel, que Dieu leur donne ce qui leur manque. En somme ici, personne ne peut dire « Moi, je ne suis pas assez intelligent sur le plan spirituel. » Eh bien, demandez. Dieu ne refuse pas. Et vous allez progresser dans l'intelligence. Et j'ajoute, vous allez être de plus en plus heureux parce que vous allez être reconnaissant, savourer ce que Dieu vous a donné, et avec ce qu'il vous a donné, vivre d'une manière plus conforme à sa pensée, et puis, il faut ainsi gagner tous les jours.
Cette notion de sacrifice, peut-être qu'il faut quand même dire que un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Les Israélites, quand ils, puisque ça fait référence aux Israélites, ceux qui offraient des animaux, hein, c'était quelque chose qui était dans leur troupeau et ils devaient, l'apporter et puis voilà, ils brûlaient et puis c'était quelque chose qui leur appartenait de leur richesse. Donc c'est vrai que je crois que Dieu, il faut quand même en avoir conscience, même si on a dit que c'était par amour, que c'était pas légalement. Dieu, il veut pas juste le superflu de notre vie, on l'a dit, il me semble. Il veut tout et quelque chose qui des fois nous fait un peu mal parce qu'on n'a pas envie de le lui donner. Quelque chose qui coûte. Hein. C'est le sens, à mon avis, de ce mot sacrifice. Quelque chose qu'on sacrifie, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est que, voilà, on aurait bien voulu le garder pour nous, et puis non, quand même, on le laisse. Mais si on garde que ce sens, c'est vrai que ça semble négatif. Voilà, on a l'air d'être perdant dans l'histoire. Hein. Et en fait, c'est pas du tout perdant puisque Dieu va utiliser ce sacrifice pour faire quelque chose d'encore plus beau, puisque c'est pas un sacrifice qui est comme un animal qui meurt et qui est détruit, mais c'est un sacrifice vivant. Donc, comme pour si ce sacrifice, Dieu allait l'utiliser pour faire des choses encore plus belles et pour nous donner encore plus de joie. Alors, sacrifier nos corps, c'est toute notre vie. Il me semble que ce que ça veut dire, c'est que, qui est le chef de ma vie ? Est-ce que dans tous mes choix, dans ce que j'ai envie de faire, finalement, c'est moi qui vais décider un peu, ou je dis, Seigneur, je te laisse libre. Alors, ça veut dire sacrifier, bien sûr, comme on l'a dit, il me semble, les choses négatives de ma vie. c'est-à-dire tout ce qui est les péchés, ça effectivement on le lui abandonne et on ne veut plus faire ça. Mais je ne crois pas que ce soit le sens de ce passage. Le sens de ce passage, c'est plutôt être prêt à sacrifier même les choses légitimes de ma vie, les choses qui ne sont pas négatives en soi, les choses qui sont bien, mais voilà, je les lui laisse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les faire, mais ça veut dire que voilà, je laisse à Dieu le choix de me guider, de continuer à faire ceci ou cela, mais c'est le Seigneur qui dirige ma vie. C'est lui qui va j'accepte d'agir selon ma volonté, on a dit, c'est dans notre volonté. C'est vrai que ça c'est un peu le début de ce chapitre qui, après, on va voir dans la fin, hein, ça concerne les relations avec d'autres personnes, la vengeance. Ça, donc, quand on a des différends avec d'autres personnes, on a envie de se venger. Est-ce qu'on va suivre ce désir qu'on a, ou est-ce qu'on va accepter de suivre la volonté de Dieu, de pardonner, et encore l'hospitalité, etc. Dans tout ce premier verset qui est un peu la base, eh bien, va pouvoir être décliné. C'est ça, choisir la voie de Dieu. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est un peu le verset 2, il me semble, parce qu'on se dit souvent, voilà, j'y arrive pas. Moi, je trouve très très beau, j'anticipe un peu, hein, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je trouve ça très très beau de voir que ceci, c'est bon, on peut le faire à un moment donné, on dit, Seigneur, je t'abandonne ça, puis après, des fois, on a envie d'y revenir, mais ce qu'on voit, c'est que c'est une œuvre qui continue et qu'on doit se renouveler tout le temps, et qui n'est pas forcément, c'est cette expression, soyez transformés. C'est bizarre, hein. C'est un impératif, et pourtant c'est quelque chose de passif. Soyez comme quelque chose qui est indépendamment de nous. C'est cette belle œuvre que Dieu accomplit avec nous, en nous, mais que c'est quand même lui qui travaille et qui va permettre que dans mon esprit il y ait ce changement d'attitude, le fait que je vois les choses différemment, que je sois d'accord de les abandonner, quoique des fois il me donne beaucoup de joie dans ces choses-là, mais que je sois prêt à ne pas les faire, et quelquefois il me donne beaucoup de joie pour discerner ce qui est vraiment le meilleur.
Je vais citer un exemple de l'Ancien Testament, et je pense ici aux jeunes adolescents qui sont là, à ceux qui, par exemple, ont demandé à être baptisés il y a quelque temps. Alors on les voit ce jour-là avec de vraies, sincères et profondes dispositions, et puis pendant quelque temps on dit « Ah, véritablement il y a un changement ». Et puis, bien, la vie est là, avec l'énergie de la jeunesse, mais ça se perpétue aussi dans différentes classes d'âge. Hein. Et puis, il y a des choses qui retombent. Eh oui, il y a quand même un renoncement. Et il y a des tournants, des moments critiques où le renoncement coûte quelque chose. Parce que on lit par exemple le psaume 73, et on voit ici le psalmiste qui dit, bon, ben moi j'ai voulu vivre pour Dieu véritablement, mais finalement je constate que ça sert à rien, parce que je vois un tel, un tel, un tel, et puis finalement ils ont tout ce dont j'aurais envie, et pourtant ils s'occupent pas de Dieu. Puis il continue, et puis au verset 17 il dit, mais quand je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai tout compris. Oui, mais avant, il y a des choses qui font encore envie. Alors, il faut un renoncement, il faut un choix, ça coûte au départ, mais après, on est heureux, on s'installe progressivement dans ce bonheur, ça non, parce que Dieu désapprouve, et que je sais que c'est mauvais. L'exemple que je voulais donner, c'est celui de David, qu'on trouve en 1 Chronique 21. Il se trouve dans l'air dormant, à un moment critique, Dieu s'est manifesté de différentes manières. L'ange destructeur avait commencé à détruire, parce que c'était quelque chose qui devait s'accomplir à cause du comportement, du rejet, de l'opposition à Dieu. Et puis l'ange arrête sa main, et David se trouve là, dans l'air dormant, et Ornan lui dit, ben voilà, je donne tout. Je donne les bœufs pour l'holocauste, les traîneaux à fouler pour le bois, le froment pour le gâteau, je donne tout. Et le roi David dit à Ornan, non, car certainement je l'achèterai pour son plein prix en argent, car je ne prendrai pas pour l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste qui ne coûte rien. Et là, on trouve le bonheur de renoncer à quelque chose ou de dépenser quelque chose pour réjouir le cœur de Dieu. Et c'est ce côté-là qu'a souligné encore Benjamin tout à l'heure, le fait de donner quelque chose, d'offrir quelque chose, des choses les plus légitimes de la vie, pour le plaisir de dire, je ne veux pas en disposer moi-même, Seigneur. Toi, dispose de ces choses et introduis-moi dans cette sphère où, l'instant suivant, je désire vivre ce qui est ton attente, ce qui sert ta gloire et ce qui est profitable pour toutes les personnes qui m'entourent. Ça coûte au départ, après, ça coûte de moins en moins. Mais il y a effectivement des renoncements de plus en plus et on s'installe dans une sphère où renoncer coûte de moins en moins cher.
Alors, c'est pour ça peut-être qu'il nous est dit « ne vous conformez pas à ce siècle ». Pourquoi ? Ben parce qu'il y a toujours le risque de se laisser entraîner. Et alors, il y a une image peut-être qui pourrait nous servir, c'est l'image de la truite. Alors, pour ceux qui sont pêcheurs, on est tous pêcheurs, mais ceux qui sont pêcheurs avec un accent circonflexe, si vous regardez une truite, elle cherchera toujours à remonter le courant. Donc, ça veut dire ne pas se laisser entraîner par le présent siècle. Et combien le présent siècle est dangereux pour nous, parce que, bien sûr, on a beaucoup de tentations, beaucoup de sollicitations. Et bien, si on se laisse entraîner, on va perdre cette dimension du sacrifice volontaire, du sacrifice de nos corps, vivants, sains, agréables à Dieu. Alors la truite, elle cherche toujours à remonter le courant. Pourquoi ? Parce qu'elle va vers la source, elle va vers l'oxygène. Eh bien, c'est la même chose pour le chrétien. Nous devons chercher à ne pas nous laisser entraîner par le courant de ce monde, mais au contraire à remonter à la source. Alors ça veut dire renoncer à tout ce qui se fait, à ce qui est à la mode, à ce qui est et combien de sollicitations avons-nous dans ce monde. Le chrétien, c'est pas un marginal, mais c'est quelqu'un qui n'a pas honte de remonter le courant, justement, parce que en se laissant entraîner, il perd son caractère de chrétien, il va devenir un petit peu, on ne le remarque plus dans le monde, il va se noyer dans la masse. Et ce qu'il nous est demandé, c'est d'avoir un témoignage vivant, un témoignage qui se voit.
Le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et à la fois, si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-on salé ? Le sel, c'est ce qui donne de la saveur et l'enfant de Dieu, le chrétien, pour Dieu, ça lui donne de la saveur. Dieu aime. Et au fond, ne pas se conformer au monde, c'est, comme tu disais, c'est pas être un marginal, mais est-ce que le mode de pensée du monde va ce qui va me guider ? Est-ce que le monde, la manière de vivre du monde va être ce que je vais faire ? Est-ce que dans la vie de l'Église, de l'Assemblée, est-ce que c'est cela qui va se faire ? Est-ce qu'il va y avoir de la compétition ? Est-ce qu'il va y avoir des choses charnelles ? Oui ou non ? Alors, le monde veut essayer de nous conformer, de nous obliger de rentrer dans ses schémas. Il va agir d'une façon extérieure pour nous faire rentrer dans le moule, et Dieu va agir d'une façon intérieure pour transformer notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est la vie de Dieu qui s'exprime. Et à ce moment-là, cette transformation intérieure, il paraît que ça peut se traduire par le mot métamorphose. Et c'est traduit aussi quand le Seigneur Jésus est transfiguré, dans Matthieu 17, c'est le même mot qui est utilisé en grec, la transfiguration. Donc nous sommes transformé, métamorphosé, transfiguré, changé à l'intérieur, de telle sorte que alors la pensée de Dieu devient pour nous, la volonté de Dieu devient pour nous ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que cette volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous comme quelque chose de dur, mais c'est quelque chose qui est la conséquence de la compréhension que l'on a de la pensée de Dieu. Notre intelligence, notre manière de voir, notre discernement est transformé par Dieu. Dans l'Épître aux Galates, les Galates s'étaient laissés entraîner vers une forme de légalisme. Vous savez qu'au début de l'Épître aux Galates, il est dit que le Seigneur Jésus est mort pour nous retirer du présent siècle mauvais, nous retirer du monde. Mais l'esprit du monde, c'est pas simplement aller au cinéma, c'est pas simplement aller en boîte, c'est pas simplement suivre la mode. L'esprit du monde, c'est aussi l'esprit religieux. L'esprit religieux qui est celui de Caïn. Je fais quelque chose pour que tu m'acceptes. L'esprit religieux qui fait qu'on oublie la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Je fais quelque chose pour être accepté. On va dire par exemple, il faut que nous soyons dans un état correct pour que Dieu puisse nous bénir. C'est faux cela. Nous devons avoir conscience que Dieu nous bénit et veut nous bénir, et la conséquence de cela, c'est que nous sommes dans un état correct. C'est pas pour être accepté par Dieu, mais c'est parce que Dieu nous accepte qu'on désire lui plaire. Ça rejoint notre chapitre. C'est, je sais que Dieu m'aime, les compassions, immenses compassions de Dieu, me bouleversent, alors j'y vais. Et alors, dans l'Épître aux Galates, il y avait ce que l'on trouve toujours dans l'esprit de l'homme, le fait qu'on veut faire une loi pour qu'on soit agréable à Dieu. Et ça, c'est la religion du monde, c'est l'esprit du monde, le monde religieux. Et Paul va dire à un moment donné aux Galates, « Mes enfants, pour l'enfantement duquel je travaille de nouveau, de sorte que Christ soit formé en vous. » Non pas une mise en conformité extérieure à une manière d'être, mais une transformation intérieure. Dieu nous transforme, Christ formé en nous. Et un chrétien transformé par Christ, par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, de cette manière-là, qu'est-ce qu'on voit de lui? Qu'est-ce que c'est qui va être un témoignage autour? Qu'est-ce que c'est qui va être un bien pour les autres? C'est quand Christ est visible en lui. Et c'est le but de Dieu dans nos vies.
En fait, on vient de voir donc dans ce verset 1 et ce verset 2 qui commence, on a trois étapes. C'est les compassions de Dieu, en prendre vraiment conscience, présenter des corps en sacrifice vivant, et puis avoir un service, un culte intelligent. Et il me semble qu'on retrouve vraiment cette idée dans des passages qu'on a cités cette année, et puis aussi qu'on a regardé l'année dernière. On revient peut-être à 1 Corinthiens 6, eh bien, on voit que la fin de ce chapitre, c'est « Glorifiez donc Dieu dans vos corps ». Est-ce que c'est pas ça un service intelligent? Voilà, donc ça c'est le résultat. Et qu'est-ce qu'il y a avant? Eh bien, il y a « Le corps n'est pas pour la fornication ». On a bien vu que ne pas se laisser conformer à ce siècle. Ce siècle qui transforme toutes les choses et qui appelle la fornication comme étant quelque chose de normal et de bien même. Eh bien, voilà. Et ça, c'est effectivement pas avoir un sacrifice vivant pour Dieu. Et puis, le début du chapitre 6, eh bien, c'est les conflits qu'il peut y avoir entre les personnes. Alors, est-ce qu'on peut avoir des conflits quand on a conscience de l'amour de Dieu pour nous, du pardon qui a été, avoir conscience du pardon dont on a été les objets? Eh bien, si on a vraiment conscience de cela, évidemment, le début du chapitre 6 de 1 Corinthiens, il tient plus la route. Donc, si on veut vraiment glorifier Dieu dans nos corps, eh bien, il y a les deux étapes qu'on vient de voir. Et puis, au chapitre 15 de Romains, eh bien, on voit ça s'applique peut-être dans le cercle, ce qu'on vient de voir en 1 Corinthiens 6, c'est dans le cercle général de nos vies, notre vie séculière, on pourrait dire. Et puis on pourrait dire, oui, mais il y a des cas particuliers, et puis quand on est entre chrétiens, comme aujourd'hui, alors c'est totalement différent, effectivement, on va pas porter des conflits devant les juges, il va pas y avoir fornication, donc ça concerne pas. Eh bien, dans Romains 15, les sept premiers versets, au verset 6, on a aussi, afin que, d'une même bouche, vous glorifiez, afin que, d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça aussi, c'est pas un service intelligent ou un culte intelligent? Et ça découle, eh bien, au verset premier, c'est l'effort porter les infirmités des faibles. Avoir conscience du support mutuel qu'on doit avoir. Avoir ce sentiment que, eh bien, les compassions de Dieu, elles sont aussi pour nos relations entre nous. Et puis, le sacrifice vivant, quel exemple il nous est donné? Eh bien, car aussi le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui m'outragent sont tombés sur moi. Est-ce que c'était pas là un sacrifice vivant qui plaisait à Dieu quand le Seigneur était sur la terre? Eh bien, il me semble que, voilà, on a trois passages. L'année dernière, on avait vu celui de Romains 15, et ces deux autres passages de Romains 12 et de 1 Corinthiens 6, ils nous montrent que dans tous les espaces de nos vies, il n'y a pas un cloisonnement dans ma vie, il n'y a pas « je suis le chrétien du dimanche, des réunions », et puis je suis un homme sur la terre qui essaye d'avoir une bonne morale. J'ai des collègues qui ont une morale parfaite, et ils sont pas chrétiens. Eh bien, c'est quand même dommage, parce que on peut avoir une image qui pourrait être conforme, mais la relation avec Dieu, elle compte. Donc, tous nos espaces de nos vies, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir pleinement conscience des compassions de Dieu dans ma vie. C'est ça qui va m'aider, on l'a déjà dit, à présenter mon corps en sacrifice vivant, et avoir un culte intelligent, permanent, chaque instant de ma vie, pour Dieu.
Oui, parce que l'enjeu ici, offrir son corps, c'est-à-dire s'offrir, mais il faut comprendre ce que désire la personne à qui on offre sa vie. Il faut avoir le discernement de ce qu'elle veut, parce qu'on pourrait être, vouloir faire plaisir à quelqu'un, et puis tomber complètement à côté parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation avec la volonté de Dieu, donc la discerner. Alors donc il y a ce contraste toujours avec le siècle, le monde, avec la société dans laquelle on se trouve. Mais qui est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine? C'est quelqu'un qui a aussi une volonté. Il est appelé par exemple le Dieu de ce siècle. Il est même dit de le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. Donc voilà, celui qui est derrière le siècle, le monde, la société, c'est quelqu'un qui a une volonté, mais qui s'oppose à ceux qui veulent vivre pour Dieu, d'abord. Deuxième chose, il est appelé aussi le chef de l'autorité de l'air. Et qu'est-ce qu'il est dit de lui? De l'esprit qui opère maintenant, et entendez bien, c'est l'esprit de celui qui opère maintenant dans le fils des désobéissances. Et quand un chrétien ne marche pas par l'esprit, il marche par la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il se laisse impressionner et dominer par une manière de penser, c'est-à-dire l'esprit qui opère maintenant dans les fils des désobéissances. C'est-à-dire qui amène à une volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas croire que parce que on vit comme ça une vie pas vraiment pour Dieu, qu'on est libre, de sa vie. Non. Soit on est sous la domination de ce chef-là, soit sous la domination de l'autre. Et maintenant, une chose importante, c'est qu'il y a celui que nous voulons servir et que nous aimons a une volonté, puisque c'est écrit ici dans le verset 3, la volonté de Dieu. Alors, peut-être un mot pour dire que Dieu est réellement le seul qui a cette capacité de décider tout seul par lui-même. Et c'est lui qui a décidé, et, ben, il n'y a plus de créer les cieux et la terre et les hommes. C'est dit dans un psaume 135. C'est aussi, quand on voit dans Éphésiens chapitre 1er et au verset 9, il est parlé du mystère de la volonté de Dieu selon son bon plaisir, ben, c'est de faire que des gens qui vont croire vont être non seulement sauvés, mais être ses fils avec lesquels il veut une relation d'intimité, des personnes qu'il désire mettre pour son service, c'est-à-dire qu'ils engagent leur vie pour son propre plaisir. Dieu a décidé, il veut. L'homme est créé aussi avec une volonté. Et je voudrais juste courtement décrire, mais ça sera schématique et on peut en discuter, mais schématique, comment est constitué l'homme créé? Thessalonicien nous apprend qu'il est créé par d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors schématiquement, l'esprit qui a été donné à l'homme, c'est ce qui fait la différence avec tous les autres êtres vivants créés. C'est celui qui permet, c'est ce qui permet l'esprit de l'homme d'avoir une relation avec Dieu, avec ce qui est du ciel, avec l'esprit de Dieu. Et quand ça fonctionne bien, Dieu, l'esprit de Dieu, communique avec l'esprit de l'homme. Et tout se passe bien parce que cet esprit va diriger l'âme, qui est le centre de décision, où il y a la volonté, l'intelligence, les sentiments. Et concrètement après, ce qui lie l'homme créé à la terre, c'est son corps, eh bien, dans le concret, il va y avoir des actes d'amour, il va y avoir des actes de fidélité, de sainteté. Voilà un peu comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand l'homme a décidé de vivre sans Dieu, son centre de décision, volonté, sentiment, intelligence, eh bien, il a occulté il a déséquilibré tout cet équilibre de Dieu. Ce qui fait qu'il a fait indépendamment de Dieu. Donc il y a une coupure entre Dieu et l'homme. En tout cas, l'homme a coupé avec Dieu. Et il a continué à décider et à vivre, mais sous la domination de quelqu'un qui avait une volonté, c'est-à-dire le diable. Et la régénération lorsqu'on croit, c'est lorsque l'esprit prend vie à nouveau, c'est qu'il retrouve une relation avec Dieu. Et tout notre chapitre ici nous amène à ceci. Lorsque mon centre de décision, parce que nous avons à décider, à choisir, se soumet à Dieu par le fait que mon esprit, va laisser l'Esprit de Dieu agir dans ma vie, alors à ce moment-là, tout redevient en équilibre devant Dieu. Tout est selon Dieu. Et justement, ce que nous avons comme capacité, nous chrétiens, c'est que notre esprit renouvelé entend et comprend ce que Dieu dit. La chose que nous avons à décider, c'est de nous soumettre à Dieu, donc à la volonté de Dieu. Nous avons toujours une volonté, mais cette volonté est soumise à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons faire des choses qui plaisent à Dieu. Alors, bien sûr, peut-être que ça sera aussi un sujet de réflexion. La volonté de Dieu, on a toujours une difficulté. Mais, vous voyez ici, volonté bonne, agréable et parfaite. Alors, beaucoup disent, oui, bonne, certainement, agréable, ça se pose problème. Et parfaite, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas le voir toujours, le côté de la volonté de Dieu, en rapport avec moi-même. Dieu a une volonté pour les hommes. Il a une volonté, il a décidé pour que ça se passe bien pour les hommes. Et ça passe mal pour les hommes quand ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ça se passe bien quand les hommes veulent se soumettre à Dieu. Et seuls ceux qui ont mis leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ peuvent justement avoir cette capacité de se soumettre à Dieu. Donc, nous allons avoir dans ce chapitre 12, 13, 14, jusqu'au début du chapitre 15, le développement de la volonté de Dieu pour que ça se passe bien dans toutes les sphères de la vie du chrétien. Ça se passe bien lorsqu'ils sont entre eux, les chrétiens. Ça se passe bien parce qu'il a décidé que les chrétiens ne vivraient pas tout seuls, mais ensemble forment un corps. Et il va justement montrer ce qu'il a décidé pour que ça fonctionne bien. Il va montrer comment ça peut bien se passer, même au milieu d'autorités qui ne sont pas obligatoirement les autorités qu'on aurait choisies. Voilà, un petit peu. Et puis voilà, le développement de cette volonté de Dieu va nous être donné. Eh bien, voilà ce que nous avons à découvrir en lisant la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu veut? Mais avant de pouvoir vivre cela, est-ce que j'ai décidé de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Je crois que c'est ça un peu qui est l'essentiel dans notre vie.
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 3, on a une indication toute simple. Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront accomplies. Alors quand il y a ce désir-là, sincère, cet esprit de soumission, nos pensées deviennent conformes à celles de Dieu. Mais la lecture de la parole de Dieu est importante pour cela. Et Paul, l'apôtre Paul, dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 10, parle de la destruction des forteresses, des raisonnements, de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et au début de notre chapitre 12, voyez, d'abord, ne vous conformez pas à ce siècle, on prend une distance, c'est la séparation du monde, donc, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, là, je lis la parole de Dieu parce que je veux véritablement serrer le mieux possible ce que Dieu pense. Là, pour moi, c'est une saveur, j'en ai besoin, parce que je sais pas tout. Personne ne sait tout. Mais chaque fois que je lis la parole, ou je trouve quelque chose d'autre, ou un autre degré d'appréciation de quelque chose que je connaissais. Et le résultat, eh bien, c'est le discernement, le fait d'examiner et d'apprécier pour pouvoir entrer dans la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite. Donc vous voyez que c'est un tout. Jean-Philippe disait tout à l'heure que c'est quelque chose de tous les instants. Je vis avec Dieu tous les instants. Quand je suis en train de vivre quelque chose, il faut que je puisse dire « Seigneur, tu me vois et je suis libre avec toi dans ce que je vis. » Alors, on entre progressivement et on apprécie de mieux en mieux la volonté de Dieu pour découvrir, comme vient de le dire Philippe, que ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il veut et veut pour moi en particulier, c'est quelque chose de bon, d'agréable et de parfait. Vous voyez, on a passé presque toute l'étude du matin sur ce début de chapitre, mais c'était important, ça en valait la peine. On va avoir maintenant des développements pratiques, et comme vient de l'esquisser Philippe, des choses qui se poursuivent dans les chapitres suivants, mais qui touchent une réalité pratique directe. On a dans ces deux premiers versets quelque chose qui constitue une base importante, et quand on entre dans la suite du chapitre avec la compréhension de ces deux premiers chapitres, de ces deux premiers versets, pardon, eh bien la suite du chapitre a un éclairage et on a envie d'entrer dans ces choses-là.
Alors peut-être, avant de poursuivre, quand même rappeler que ces deux premiers versets sont très importants, que le risque pour le chrétien dans un monde où le Dieu de ce siècle cherche toujours à tromper, et à dose homéopathique, il fait passer ses messages. On le voit en 50 ans dans notre vie, on voit combien les mentalités se sont transformées, ne serait-ce que sur le plan des mœurs. Et bien le chrétien, il n'est pas à l'abri aussi de se laisser entraîner, et il a toujours à revenir à la source, et la source, c'est la parole de Dieu. Et pour chacun d'entre nous, c'est en lisant la parole que nous connaîtrons la volonté de Dieu, et que nous ne serons pas comme de petits enfants ballottés ça et là par tout vent de doctrine, mais fondés et fermes dans la saine doctrine. Et c'est en lisant la parole donc que nous saurons quelle est la volonté de Dieu pour nous, et de manière à marcher à sa gloire.
Il y a un acte volontaire quand même au départ. Il y a une exhortation et il y a le fait de se donner. Il y a un pas que tu fais. Et il y a le fait que Dieu agit. Se présenter à Dieu, présenter vos corps, et puis ne pas se conformer à ce siècle, non pas et avoir des règles extérieures de vie, mais quelque chose de différent dans le sens. Et soyez transformés, c'est métamorphosé, c'est Dieu qui agit. Et de cela découle le fait de discerner la volonté de Dieu. C'est une transformation intérieure. Mais c'est toi qui te donne. Dieu te prend pas d'office. C'est toi qui te donne. Cette métamorphose, cette transformation, elle est faite par le Seigneur en toi. C'est vrai que ce début de chapitre est quand même capital pour la suite. On peut essayer de. On a souvent tendance à vouloir se faire une transformation extérieure. Et Dieu veut une transformation intérieure. Il travaille dans le cœur, dans la conscience. Il travaille en nous. Il nous transforme profondément. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est à la fois merveilleux. Et c'est à la fois actif, c'est-à-dire je me donne, et c'est passif, c'est lui qui agit. Et c'est un peu difficile peut-être à expliquer, mais c'est comme ça que ça marche.
Qu'est-ce qu'on trouve dans le psaume 40 et qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10 ? Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne l'exemple, qui lui a aussi une volonté, et puis un engagement, mais un engagement dans la pensée de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il dit que sa face est dressée résolument. Il va vers l'accomplissement de cette œuvre, il va se donner, parce que sa vie donnée, c'est le salut pour les hommes, et c'est l'acquisition d'un peuple d'adorateurs que le Père désire. Voilà, il entre, c'est l'exemple parfait. Je vous propose pour terminé de chanter deux versets de cantique, dans le cantique 71, les versets 3 et 4, et puis il sera l'heure pour l'interruption jusqu'à 14 heures.